Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
La Terre appartient à tout le monde, y compris à ceux venus des pays du Nord se réchauffer à notre soleil du midi. Quel beau cadeau il nous est fait en retour avec cette errance dans une France ancienne où les routes rares étaient de terre, les animaux bien proches des hommes et la nature omniprésente, sans traces de béton ni de pétrole. Quelle connaissance pour nous entraîner à la suite de deux fugitifs, deux amoureux, vers les signes de Mentou Salon, puis vers la sculpture de Jeanne de Bologne à Rouen, en passant par la basilique de Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. Quel talent de conteur et d'historien aussi pour nous narrer un épisode historique et tragique de la France médiévale, celui des pogroms. C'est à Stéphane Hartmann que nous devons ce beau roman passionnant, Le cœur converti, c'est son titre, qui est édité chez Gallimard. Stéphane Hartmann, bonjour.
Bonjour.
Permettez que je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes auteur d'une œuvre néerlandophone importante, composée alors de romans, dont plusieurs sont traduits en français d'ailleurs, de nouvelles, d'essais, de poésie, de textes pour le théâtre. Vous avez obtenu de nombreux prix et vous êtes un conférencier international, je dirais, maintenant. Bon, vous n'enseignez plus à l'Académie royale des beaux-arts de Gand, mais j'arrêterai là parce qu'on n'en finirait pas et nous n'avons que 50 minutes. Quelle différence y a-t-il entre le flamand et le néerlandais? Je me suis posé la question.
Oui, en fait, les flamands forment la partie néerlandophone de la Belgique, qui sont environ 60-63% de la population. Mmh. Alors, pour beaucoup de francophones, c'est un peu étonnant que, en fait, la Belgique, la majorité est néerlandophone et pas français, pas francophone. Ouais. Mmh.
Mais il y a le flamand.
Le flamand est le néerlandais. Entièrement, ça appartient au néerlandais. Cela veut dire que la syntaxe, le vocabulaire est pour 90% la même chose. Mais les flamands parlent d'une autre façon. Ils ont un autre accent, un peu plus doux. Vous pouvez comparer avec l'allemand autrichien et l'allemand allemand. Voilà. D'accord. C'est une telle différence. Ou les gens d'Irlande qui parlent l'anglais avec un autre accent. C'est tout.
Mais alors, vous êtes flamand ou néerlandais vous-même?
Moi, je suis flamand. Je suis natif de Gand, qui est une ville flamande, une vieille ville flamande.
Mais on a traduit votre livre du néerlandais.
Du néerlandais en Belgique.
D'accord. Ah, en Belgique.
Ma langue, voilà, encore une façon de vous expliquer. Je peux parler avec un accent flamand. Là, on dirait que je parle flamand. Mais ma langue officielle, la langue de culture, est le néerlandais, qui est le flamand.
D'accord. Voilà. Voilà pour une petite explication. Ouais. Ça a aiguisé ma curiosité. Alors, votre ouvrage est un roman, mais pas seulement. C'est aussi une enquête, une véritable enquête, un récit historique, alors émaillé de notes anthropologiques, architecturales, géographiques, bien sûr, etc. Parce que vous me parlez même des plantes. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas dans votre texte à entrer en scène et à insérer des touches, je dirais moi, de poésie. Un travail de longue haleine.
Oui, 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 tout à fait. J'ai sous-signé le livre avec, en fait, des dates imaginaires. J'ai mis comme début le moment que j'ai acheté cette maison en Provence, en Vaucluse, qui était 94. Et bon, j'ai mis cette date. Ça peut donner l'impression que j'ai travaillé 23 ans ou 24 ans à ce roman. Ça, c'est pas la vérité. Mais c'est cette histoire qui a mijoté, pour ainsi dire, qui a mûri aussi en moi et qui a pris son temps à parvenir à moi. Et c'est à un certain moment qu'un voisin à moi m'a donné un article en anglais.
D'accord. Et voilà. Et oui, alors on va en parler de cet article. Comment l'avez-vous écrit? Et quel genre avez-vous privilégié d'abord? Parce que c'est un récit, mais il y a également des tas d'autres choses, énormément d'explications, y compris sur les rites juifs, sur le judaïsme même, sur les lieux, sur les je parlais d'architecture. Et comment avez-vous écrit?
Oui, je me rends compte que, en fait, dirons que le genre du roman permet tout. Oui. Comme l'a dit l'écrivain anglais Julian Barnes, parce qu'on lui demandait « Est-ce que votre dernier livre, c'est vraiment encore un roman ?» Il a dit « C'est nous qui décidons ce qui est un roman. Et on le change et on peut faire tout. Et on va dire après coup, c'est un roman. »
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Et
Aimez-vous, qu'est-ce qu'au départ, ça a été d'abord le récit ou...
Oui, d'abord le récit, parce que je voulais raconter vraiment le sort de cette pauvre femme au XIe siècle et son sort tragique. Et même à un certain moment, quand j'étais complètement enfoncé dans mes recherches et que j'étais fasciné, c'était mon éditrice à Amsterdam qui me disait « Stéphane, reste proche d'elle, il y a déjà plein de livres d'histoire sur cette période des croisades. » Mais tu as trouvé ta voisine dans ton petit village vauclusien. Il faut suivre cette femme. Et en fait, mon éditrice a dit à un certain moment, il faut que tu tombes amoureux d'elle.
Oui.
Voilà,
oui, oui.
Ça sera ton livre.
On le sent.
Ça sera ton livre.
Il y a une belle introduction à ce roman. C'est le pouvoir de l'imagination, du rêve. Vous voyez, de votre fenêtre, deux individus clopinant se rapprocher du village, de votre maison.
Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire ce roman en Belgique. Ma demeure en Belgique.
Chez vous.
C'est tout à fait différent. Mais quand je suis là en Provence, la Haute-Provence, comme l'a dit Giono, n'a rien à voir avec la Basse-Provence. Il n'y a pas de vignes, il n'y a non plus des Américains et pas des piscines.
C'est plus aride.
C'est montagnard. Mmh. Ça veut dire qu'on parle des truffes, des chèvres, des moutons. Il y a des vérités éternelles là, en haut. Et c'est un pays qui n'a pas changé en fait. Et quand je regarde à travers ma fenêtre, je vois le monde d'antan du XIe siècle de ce personnage de mon roman. Et c'est à cause de cela que j'ai commencé le roman avec une sorte d'ouverture classique, de regarder à travers la fenêtre de l'imagination et de s'imaginer que ces deux gens pouvaient de nouveau s'approcher de mon village, tandis que c'était évidemment il y a 1000 ans.
Et vous allez nous les rendre très proches, parce que vous avez une maison donc à Maulnieu, dans le Vaucluse. On va pouvoir en parler un petit peu. Et vous décrivez ce village actuellement. Et on devine pourquoi il vous a plu. Alors j'avais prévu une lecture, mais je crois que vous avez tellement de choses à dire, parce que c'est vrai que c'est un très beau paysage.
C'est un paysage formidable, c'est
et
un paysage...
Et le village aussi.
Oui, c'est dur, c'est très désert. En hiver, par exemple, il y a des semaines qu'on est enneigé, que les gens mangent ce qu'ils ont dans leur congélateur. On est dans la montagne. Les étés, ça peut être vraiment aride, mais c'est cet aspect dur du paysage qui me plaît tellement.
Oui. Et le village lui-même, je suis allée voir, j'ai fait la curieuse. Je suis allée voir sur Internet, bien sûr. Le village lui-même paraît très beau.
C'est un village un peu de caractère perché et il se trouve contre un paroi de 100 mètres, un rocher. Et en-dessus du rocher, il y a la tour médiévale qui a été construite à l'époque, pendant la vie de ma protagoniste. Et voilà, c'est un village qui a été gardé. Et parfois, en hiver, j'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge, quoi. Il n'y a pas trop qui a changé. Évidemment, on est près du Mont Ventoux, mais heureusement, les cyclotouristes ne viennent pas de notre côté.
Oui, alors d'ailleurs, vous en parlez avec une certaine nostalgie, parce que ce village se vide peu à peu, et vous faites l'énumération d'amis ou de commerçants avec dont vous êtes très proches, qui s'en vont comme cette... c'est vrai, la perte du milieu rural en France et dans d'autres pays, je pense, qui est assez tragique. Et en même temps, on voit que c'était un village important, parce que nous allons nous situer dans les années 1000, 1080 même, mais c'est un village très important à l'époque.
Je pense qu'à l'époque, c'était une ville. Et que c'est devenu un village après coup. Mais quand on voit que les Juifs étaient présents, et diront que ça sera peut-être, ça aura été une population de peut-être 100 gens, juifs, c'est considérable. Maintenant, il y a peut-être encore quelques 60 gens dans le centre du village.
Il faut s'imaginer que
habitants c'était beaucoup plus plein à cette époque-là.
Ah, oui.
Et
oui,
c'était
oui.
beaucoup plus important.
Mais vous savez qu'on le voit dans les villages des Pyrénées également, cette déperdition de population. Alors, vous décrivez la vie de l'époque, c'était une vie en fait misérable quand même.
Bon, pour certaines personnes, oui, et pour la plupart.
Pour
oui.
la plupart.
Ça explique aussi le succès des croisades. Parce que les croisades, ce n'était pas seulement les chevaliers, c'était le peuple qui suivait, qui n'avait rien à perdre.
Oui.
Voilà, et ça explique aussi le débasculement, pour ainsi dire, et le changement de la démographie totale pendant les croisades pour toute l'Europe.
Oui.
Et Bon, je pense que ce changement en Europe qui se réalise pendant la vie de cette pauvre Vigdis Adelaïs, la femme dans mon livre, marque encore notre actualité.
Je sens que vous avez hâte d'en parler, mais avant, je voudrais juste encore que vous me disiez, en fait, c'était une vie où le danger était présent. Il y avait une grande anxiété, on a l'impression qu'il y avait des brigands, c'était le Moyen-Âge.
Oui, mais écoutez, il faut compter quand même que pendant presque 1000 ans, les diverses religions en Europe du Nord et Europe centrale même, les juifs et les chrétiens avaient vécu en paix.
Oui.
Mais c'est à cause des croisades que tout a changé. Évidemment, il y avait l'islam en Espagne.
Oui. Et qui s'arrêtait là.
Voilà. Mais aussi là-bas, l'Espagne de l'islam à cette époque-là vivait en paix avec les juifs.
Oui.
Mais tout a été changé par le sermon de Urbain II à Clermont.
Hein? Ah. Alors, on en parlera. Oui, et puis il y a eu l'angoisse du ciel qui allait tomber sur la tête. Il y avait la comète de 2014, il y avait l'éclipse de soleil, il y avait ce mistral glacial, il y avait tout ça. Vous nous le peignez d'une manière où on imagine que ce n'est pas les villages provençaux d'aujourd'hui, ce n'est pas idyllique, ce n'était pas idyllique de toute façon. Et puis, vous parlez des troupes de l'Église à ce moment-là. Il y a eu la description du Saint-Sépulcre à Jérusalem, sur l'ordre d'un sultan. Et c'est vrai que là, les faits se sont durcis, les positions se sont durcies. Alors, la peur d'une fin du monde, c'est le millénaire, la fin du millénaire.
Il faut compter aussi que du point de vue géopolitique, le pape Grégoire VII, qui est le prédécesseur de Urbain II, a gâché pas mal de possibilités de faire une politique de paix. Par exemple, avec le royaume de Henri IV, le royaume de l'Allemagne de cette époque-là, ou avec l'Église byzantine, il a gâché toute la diplomatie. C'était un homme très impulsif, et ce n'était pas un diplomate. Tandis qu'Urbain II, ça, c'était un diplomate.
Oui. Alors oui, en même temps, le pape invite à se purifier, fin du monde possible. Et c'est à ce moment-là que cette idée de purification a poussé à des extrêmes. Et c'est là où on parle de la montée de l'antisémitisme, des premiers pogroms. Il fallait séparer le bon grain de l'ivraie. Auparavant, il y avait eu des cas épars, mais rarissimes, tandis que là, c'est dans tous les lieux de l'Europe, non, de l'Europe occidentale.
Ce qu'on voit en fait, c'est avec le sermon de Urbain II à Clermont, le 5 novembre 1095, qu'il prêche la première croisade et qu'il ajoute « Mais il ne faut pas attendre d'abattre les ennemis du Christ » qu'au moment que vous êtes à Jérusalem. Cela veut dire que les seuls ennemis qu'ils pouvaient rencontrer, c'était les Juifs. Et Pierre l'Ermite, évidemment, va entamer la croisade du Nord et il va attaquer les Juifs de Worms, Trier, Cologne, Bonn. Et c'est la catastrophe qui s'ouvre. Par contre, vous savez que les croisés du Sud, du Midi, partent d'ici, de Toulouse, avec Raymond de Toulouse.
Raymond.
Et on n'a presque pas de renseignements ou d'informations sur les pogroms en Provence. On pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce que les Juifs étaient de haute rangée et très respectés à cette époque-là,
dans
en
ces
Provence.
Villages en particulier.
Même ici aussi, à Narbonne par exemple. Narbonne était arabo-espagnol. On ne parlait pas de français là. Mais on vivait pas seulement en paix avec les Juifs. Il faut aussi évidemment compter que les Juifs payaient une sorte d'impôt, la dimitude, comme disaient les Arabes. Et puisqu'ils étaient d'intérêt économique, on les laissait vivre en paix. Mais tout a changé avec cet accent de guerre sainte, guerre religieuse. On peut dire, si vous me permettez, que c'était l'époque djihadiste des chrétiens.
Oui, alors... Moi, j'ai d'autres informations, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que quand même, il y avait des chrétiens en terre d'islam qui ont été persécutés.
Aussi bien, évidemment.
Comme ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, qui s'est passé
aussi
avec
bien.
Les chrétiens d'Orient. Les Turcs
les Seljouks,
font de plus en plus d'obstacles au pèlerinage.
Ouais, ouais.
Et Alors ça, c'est le côté religieux, et il veut effectivement reprendre, du moins ouvrir une brèche dans ce domaine. Et puis, il souhaite aussi, alors c'est plutôt politique là, une union de toute la chrétienté. Alors évidemment, ce que vous dites, ça signifie en effet,
ça s'endurcit. Ouais.
Oui, oui, oui.
Est-ce que... Tout côté.
Oui.
Oui, oui, de tous côtés, ça s'endurcissait à ce moment-là.
Oui, et à partir du moment, il y a quand même quelque chose que l'on voit même encore, c'est que pour unir les gens, il faut les amener faire la guerre. À ce moment-là, ils sont... Voilà.
Exactement. C'est que le pape Urbain II, qui était un diplomate et un Français, c'était Eudes de Châtillon, qui a été élu parce qu'on se rendait compte qu'avec Grégoire VII, l'Église avait... perdu beaucoup de son prestige. Et parce que Urbain II était un grand diplomate et un politicien, il s'est rendu compte qu'il a fallu un grand projet. Voilà.
C'est ça. Pour unir les hommes. Alors malheureusement, ce grand projet a été dévoyé. Car à un moment donné, enfin, nous allons y revenir. On parle des croisades. Il s'agissait de chevaliers. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les chevaliers étaient suivis d'une horde incontrôlée.
D'abord, il y avait les infanteristes. Derrière les infanteristes, parfois leurs familles. Puis, les gens qui voyaient passer tout ce cortège joignaient. C'était des petits paysans qui n'avaient rien à perdre parce qu'ils vivaient des conditions misérables. Et on a des témoins de l'époque qui disent que les rangées, les dernières rangées, oui, c'était les paysans, les enfants,
les gueux, on disait,
les chèvres, les gueux, les putes, oui, tout le monde qui,
oui,
suivait.
Oui, oui. Et qui faisaient n'importe quoi.
Parce qu'au moment qu'ils arrivent dans les terres de l'actuelle Croatie, ils sont souvent attaqués parce que les gens ont entendu d'eux et ils ont très mauvaise réputation. Et les gens craignent le passage des croisés, oui, parce que ce ne sont pas tous des chevaliers qui ont un comportement raisonnable. Et c'est un effet que Urbain II ne s'est pas rendu compte, qu'il avait entamé quelque chose qui pouvait mettre en flamme toute la population de l'Europe. Et au moment qu'ils arrivent à Antiochie, par exemple, qu'ils détruisent toute cette ville arabe et aussi chrétienne,
ouais,
il n'y avait pas de raison pour, oui, faire cela. C'était, oui, des gaffes énormes.
Oui.
Voilà.
Plus que des gaffes, même, oui. Ouais. Oui, oui. Mais, oui, alors, je pense, j'avais noté cette phrase de l'historien Georges Duby qui disait que l'an 1000 voit le passage d'une religion rituelle et liturgique à une religion d'action. Ô combien !
Absolument. Oui. Un activisme.
Oui, 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 voilà. Alors donc, croisade, mais aussi bûcher, excommunion, pogrom.
Violence.
Et, oui, violence.
Voilà.
Voilà.
Je me suis rendu compte qu'en décrivant cette période, je voyais la même chose s'effectuer que maintenant. Ce que moi j'appelle cet océan d'adrénaline qui est en train de monter de nouveau. De nervosité, d'intolérance. Ça se voit de nos jours de nouveau.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, revenons à Monieux, parce que Monieux était un lieu pour les réfugiés. Pourquoi ?
Je n'en sais rien, mais il y avait certains lieux où les gens savaient qu'ils étaient sains et saufs. Et je m'imagine que, par exemple, Orléans, on savait qu'Orléans aussi bien, pour les Juifs, c'était un lieu sauf.
Oui.
Et Monieux avait apparemment cette... comment dire en français ?
Une réputation de tolérance.
Cette réputation de tolérance, voilà, merci. Et bon,
je vous lis, hein.
Et voilà. Mais il y a une autre raison pourquoi ils ont été envoyés, parce que ce qu'on n'a pas encore raconté, c'est que la fille qui se convertit au judaïsme par amour pour un juif, que lui était le fils du grand rabbin de Narbonne, qui à cette époque-là était le roi aux juifs de la France entière.
Le roi des juifs. Oui.
Le roi aux juifs, on disait. Oui.
Le roi aux juifs.
Oui. Et qui se vantait qu'il était de la ligne de David. Mais il y en a pas mal des rois aux juifs qui disaient qu'ils étaient de la ligne descendance de David. Mais bon, il était l'homme politique le plus important de juif de la France à cette époque-là. Et c'est lui qui envoie sa belle-fille, qui lui cause pas mal de problèmes, évidemment, parce qu'elle est chrétienne et est prosélyte. Il les envoie au moment que les chevaliers de son père, de la fille, viennent la chercher à Narbonne. Il les envoie à Monieux.
Oui,
et on le sait
qui
parce qu'il y a un parchemin qui
c'est,
en parle.
C'est vous qui racontez l'histoire. Ça y est, vous faites le... Ouais. Oui, oui, alors autre chose, parce que justement vous parlez de Narbonne, on parle de Rouen, cette jeune fille. Alors, en fait, une jeune fille normande de la grande bourgeoisie catholique, Vigdi Adélaïs, s'éprend d'un jeune homme juif, David, fils du grand rabbin de Narbonne, le roi aux Juifs. Il est venu à Rouen pour étudier dans une école talmudique, d'ailleurs, que l'on appelle Yeshiva.
Yeshiva.
Bon, leur amour est impossible, interdit et puni s'ils se découvrent par l'excommunion et le bûcher. Après qu'elles se soient converties au judaïsme par amour, ils choisissent, en fait, ils n'ont que cette solution, ils choisissent de fuir vers Narbonne. À 900 km de là, ils effectuent ça à pied. Elle est enceinte. Et le récit ne s'arrête pas à Narbonne. Poursuivis par les sbires du père de la jeune femme, ils vont aller se réfugier à Monieux avec leurs deux enfants, où ils seront victimes, là, justement, d'un pogrom. Et la jeune femme va repartir seule vers l'Égypte à la recherche de ses deux enfants qui ont été capturés. Elle aura donc connu une vie d'errance. En fait, l'histoire elle-même est terrible. Elle part d'un très beau roman d'amour, mais vraiment un amour fou, un amour qui n'aurait pas dû être parce que vraiment il courait. Et ça se termine, c'est une victime.
C'est horrible. Oui. Oui, au moment que j'ai découvert qu'il y avait un deuxième document qui parle d'elle et qu'elle avait été mise au bûcher au nord de l'Espagne, je me suis dit, mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? On a retrouvé sa lettre de recommandation au Caire. Elle venait de Rouen et elle a vécu 6 ans dans mon village en Vaucluse. Mais quelle vie, il y a 1000 ans.
Oui.
Et en plus, ça parle d'une identité, ce que je trouve très important. Ça parle d'une identité multiple.
Oui.
Une identité de mélange culturel. Elle s'appelle Vigdis. Elle est scandinave, en fait, parce que
son père.
De 80% des patriciens de Rouen, de Rotomagus à cette époque-là, étaient des Scandinaves, évidemment. Mmh. C'était la Normandie.
Ceux qui ont envahi avec les dracars,
voilà.
Etc. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant. Mais auparavant, je veux dire quelque chose à nos auditeurs. Voilà, vous écoutez cette émission et vous mesurez sans doute la chance de pouvoir être en relation avec un écrivain pendant 50 minutes, de pouvoir partager avec lui son savoir, ses valeurs, ses interrogations. Ne l'oublions pas, l'évangile de Dieu s'inscrit dans la culture que se forgent inlassablement les hommes en quête de vrai, de beau, de transcendance et d'espérance au sein des drames de l'existence et de son apparente absurdité. Quelle chance d'accorder autant de place à la culture comme le pratique tous les jours Radio Présence. Mais une radio coûte cher, hélas, matériel, micro, antenne, ordinateur, entretien, etc., etc. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Radio Présence, qui veut rester libre et indépendante du pouvoir des annonceurs publicitaires, vit grâce à vous. En participant aux radios dont vous faites vivre votre radio, vous faites vivre Radio Présence, aidez-nous à continuer. Vous pouvez participer au Radio Don en faisant une promesse de don au 05 62 48 63 00, prix d'un appel local depuis un poste fixe. Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 20 heures. Ou en faisant un don en ligne sur le site radioprésence.com, simple, sécurisé, 24 heures sur 24, en envoyant un chèque à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31 300 à Toulouse. Je vous remercie.
Mes amis, que reste-t-il?
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, vous venez d'écouter Carillon de Vendôme, interprété par Laurent Voulzy et un groupe de musique médiévale, Carillon de Vendôme, dont nous parlera notre auteur aujourd'hui, Stéphane Hertmann, qui nous propose un livre magnifique, Le cœur converti, une histoire d'amour, une histoire de religion, une histoire de guerre, une histoire de lutte implacable, où on se rend compte après coup des bêtises qui sont faites. Une histoire, et Stéphane Hertmann vient de le dire, qui nous rappelle des événements qui se passent actuellement et nous devons en tirer des leçons.
Ben, je pense bien, mais de l'autre côté, moi j'ai voulu raconter cette histoire. À un certain moment, j'étais en train de lire que pour les pèlerins, la Syrie était devenue très très dangereuse parce que la Syrie était en flammes, écrit le chroniqueur arabe Ibn Aqwal. Bon, évidemment, la soirée, quand je termine mon travail et j'allume la télé, je vois la même chose, la Syrie est en flammes. Et on se dit, mais il y a presque rien qui a changé dans le monde. Au moment qu'on a vu les attentats à Paris, dans un supermarché cachère, et qu'il y a des terroristes qui s'écrient qu'ils ont tué des croisés, on se dit, mais quand même, c'est pendant la vie de ma pauvre prosélyte que tout cela s'est produit et que tout ça a été commencé. Cela veut dire qu'il y avait le danger que je pouvais devenir un raconteur moralisateur. Mais je suis de la conviction que la littérature ne doit et ne peut pas être moralisateur.
Mais il faut éveiller les consciences.
Non, c'est au lecteur de conclure qu'il y a pas mal de parallèles avec notre époque. Mmh. C'est pas à moi. Et les lecteurs sont très émus parce que c'est eux qui découvrent quand même que c'est la même situation. Aussi bien quand on considère qu'elle a fait la traversée de la Méditerranée en sens inverse, les réfugiés d'aujourd'hui, quand même, ça nous rappelle le sort des réfugiés qu'on voit partout en Europe et toute la politique qui est en flammes.
Et ce qui nous rappelle, c'est qu'au nom de Dieu, on peut faire des choses tout à fait déplorables. Là, c'était le cas au moment des croisades. Et hier, lors d'une interview, on parlait de l'attaque du World Trade Center et Mohamed Atta a foncé dans le gratte-ciel en criant « Dieu est grand ». Et George W. Bush disait que Dieu était son protecteur, même il était missionné par Dieu.
On peut tout faire au nom de Dieu et on va toujours trahir ce que peut être Dieu. J'ai eu une éducation en Flandre typique, catholique, mais vraiment catholique d'une façon très intime. Pour mes parents, pour mon grand-père, je décris sa vie dans mon autre livre, Guerre et Térébenthine. Cette chrétienté, ce catholicisme avait quelque chose de très très personnel. C'était vraiment quelque chose d'intime qui devait vous changer à l'intérieur de vous-même. Mais quand on voit ce que l'Église en fait, c'est une institution. Et il y a pour pas mal de gens, il y a une grande différence entre ce que les institutions représentent avec leur politique et leur géopolitique et ce que les gens cherchent en Dieu. Ce que je cherche en Dieu, je suis plus croyant maintenant, mais je connais l'expérience et cet aspect d'espérance et d'intimité avec une transcendance va toujours rester chez moi. Je peux la retrouver quand j'entends Bach, quand j'entends de la musique. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que l'Église est en train de faire. Voilà.
Mais moi non plus, mais en même temps, Stéphane Hertmann, vous le savez bien, nous avons l'espérance et nous savons quand même que l'Église est faite aussi de gens qui ne sont pas dans ces catégories-là que vous rejetez.
Je ne rejette pas, je prends ma distance. Je ne rejette pas parce que rejeter, c'est trop fort.
Mais vous savez bien que, comme dans toute institution, il y a les gens sont différents, il y a toutes sortes de gens, mais il faut être vigilant.
Oui, mais restons sur le point philosophique. Vivre la foi de l'intérieur, ça c'est vraiment chercher Dieu, c'est quelque chose de philosophique, d'existentiel. Mais vivre Dieu de l'extérieur comme une politique, ça c'est tout à fait différent.
Le proclamer, c'est
différent.
Tout à fait. Et ne pas se poser de questions, je trouve que c'est ce qui est inquiétant parfois.
Et en plus, j'ai toujours trouvé que les deux amis qui se rendent à Emmaüs, hein, et qui ne savent pas que c'est le Christ qui les rejoint, que c'est une très belle image de la foi. C'est quelque chose qu'on cherche. C'est pas une question de certitude, de convaincre, de prêcher, de supprimer, de dominer. Non, c'est une question de trouver. Et c'est pour moi ce que, qui est le plus beau dans la foi, c'est qu'on est dans les doutes existentiels et qu'on cherche Dieu, qu'on est toujours dans en train de se rendre à Emmaüs. Voilà, même si on ne croit pas, je suis cherchant.
Oui,
je cherche dans ma vie.
Oui.
Voilà.
Oui.
On cherche la vérité.
Oui. Alors, cette belle et triste histoire, en fait, vous l'avez connue comment, au départ, cette lettre, d'où vient-elle ?
C'est un peu fou. C'est complètement par hasard que j'ai découvert le village, d'abord. La femme qui est maintenant mon épouse et que je connaissais seulement quelques mois à cette époque-là, on faisait notre premier voyage ensemble, on était très amoureux, et elle me disait, je me rappelle que mon père m'a à un certain moment laissé voir un endroit que j'ai jamais oublié, et c'est quelque part profondément dans des gorges, c'est préhistorique, et sous une sorte de paroi rocher, il y avait seulement un mur qui forme une chapelle du 11e siècle.
C'est grâce à elle que vous avez connu mon Dieu.
Oui, oui. Et j'ai dédié mon livre à elle parce que le livre,
ben
elle,
oui.
la dédicace est à la femme qui embrassa une maison. C'est elle qui a embrassé la maison au moment qu'on l'a vue. C'était une maison décrépitée qui était en train de se déchirer. Il y avait une fente dans la façade. Et c'est elle qui a dit, bon, ici, à cet endroit, mon Dieu, on va avoir une deuxième vie parce que ce n'est pas seulement une question d'acheter une deuxième habitation en Provence. On s'achète une deuxième vie.
Oui.
Bon, ça vous change. Et bon, j'avais vécu déjà quelques années là, enfin, les vacances, etc., 3 mois par an. Et j'entendais toujours parler d'un trésor de mon Dieu, le trésor de mon Dieu. On parlait qu'il y avait un trésor quelque part, et les villageois, au moment qu'il y a un journaliste, commençaient toujours à rigoler, ils disaient « Oui, mais le vrai trésor, c'est nous, c'est notre village. » En plus, on parlait d'un cimetière juif, mais il n'y avait personne qui savait où ça se trouvait. Et à un certain moment, mon voisin, qui était un Allemand des Huguenots, parce qu'il faut compter que pas mal de Huguenots vivent en Bavière. Ils ont le nom Dupont, Dubois, etc. Toujours
en Allemagne. Oui, c'est vrai. Et au moment de la Révolution, ils sont partis.
Exactement.
C'est ça.
Et il était fasciné par cette histoire. Il m'a dit, Stéphane, moi j'ai un article ici en anglais, puisque tu lis l'anglais. Il s'agit de notre village. Quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était une histoire d'une importance incroyable. Parce que, bon, maintenant il faut... le nerf de la guerre, c'est que un professeur, un savant des études hébraïques à Chicago, qui s'appelle Norman Golb, a élucidé un document des 250 000 documents qu'on a trouvés dans une vieille synagogue au 19e siècle.
Et dans un lieu étrange.
Non, dans un lieu qui est très connu dans le monde juif, ça veut dire que le rabbin a toujours... l'obligation de rendre à Dieu chaque document, même si c'est une facture ou un document d'administration, sur lequel se trouvent les 4 lettres YHWH, Yahvé. Parce que c'est Dieu qui doit les reprendre. À cette fin-là, on a toujours un paroi à l'arrière de la synagogue. Et il y a un trou,
oui, voilà.
Souvent sur l'étage des femmes. Hein? Et là, le rabbin doit jeter dans le vide, pour ainsi dire, chaque document où se trouve Yahvé. Et c'est Yahvé qui doit les reprendre. Normalement, après un siècle, les rabbins organisent une sorte de cérémonie pour enterrer ce qui reste encore, ce qui n'a pas été rongé et mangé par les rats et les souris. Dans cette synagogue, au vieux Caire, qui existe toujours, qui est la synagogue Ben Ezra,
que vous dites, est magnifique.
Maintenant, de nouveau, elle est magnifique.
Ouais.
Au 19e siècle, elle était
en ruine,
en décrépitude. Ouais. Voilà. Mais les rabbins avaient un petit commerce. Ils vendaient de temps en temps quelques documents. Et à un certain moment, il y a 2 femmes britanniques qui viennent à Cambridge, chez le grand rabbin de l'université de Cambridge, et lui disent, bon, on a quelques documents, est-ce que vous pouvez voir ce que c'est ? Et il prend le premier document, et il dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cela? C'est une page en hébreu de l'Ecclésiaste grec. On n'a pas ce document. Il a été perdu. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Oh, we bought it for a bakshis for a rabbi. On a acheté d'un rabbin pour un bakshish. Il monte une deuxième page. C'était un poème de Yehuda ben Halevi du XIe siècle. Il dit, mais il faut que je m'y rende. Voilà, il a demandé des finances à l'université de Cambridge. Il s'est rendu sur les lieux. Il s'appelle Solomon Schechter. Puisqu'il était un rabbin de grande réputation, il a dit, arrête vos conneries, je veux tout. Et il a amené les 250 000 documents.
Il a tout trouvé dans le trou ?
Tout trouvé dans le trou. On n'avait jamais enterré. Il y a des documents de avant la destruction du temple. Le temple a été détruit en 66.
En fait, pourquoi ce n'est pas connu, ça, cette histoire extraordinaire ?
Je ne comprends pas. Au moment que j'ai pris contact avec le grand savant à Chicago, il était complètement surpris qu'un écrivain belge voulait s'occuper d'une affaire qui était connue par 25 personnes dans le monde.
Ouais.
Et voilà, je lui ai dit, oui, mais je vis à Monnieux. Il a été à Monnieux dans les années 60 parce qu'il a commencé sa carrière avec la découverte de ce document. Et moi, je suis monilien. Et j'ai gagné sa confiance. Il est toujours vivant. Il a 86 ans. Il a même publié un nouvel article basé sur mon roman et les recherches que j'ai faites. Ça veut dire qu'au moment que je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de ma voisine dans mon village provençal, mais une histoire de toute l'Europe d'aujourd'hui et de l'Égypte, etc., vraiment géopolitique, je me suis rendu compte que c'était une grande histoire. Et voilà que je l'ai trouvée par hasard.
Tout à fait par hasard. Ouais. Rien que cela, c'est déjà un conte, c'est déjà vraiment une histoire dans l'histoire. Ouais. Stéphane Hertmann, nous allons faire une pause musicale. Alors, nous allons écouter le chant des troubadours de la France médiévale et nous reprendrons tout de suite après.
La gran beuta zela fins in signomis, el verai prezillos buna lausu. El curtes dice la freccia oculus, che sunemus bona donna vali. Me vedo un angel de chantor e si è venza. Ma gran paur mutò.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Stéphane Hertmann et nous parlons de son roman Le cœur converti, paru aux éditions Gallimard. Un très beau roman, qui nous tient à haleine, qui est un mélange, mais un mélange qui est salutaire parce qu'il y a à la fois une description de lieu, une description de présent et de passé, l'incursion de l'auteur lui-même, on en parlera parce que ça aussi c'est très intéressant, et qui fait que c'est une lecture qui est passionnante de bout en bout. Alors, je ne fais pas de flagornerie, je le pense vraiment, et je pense aussi que vous êtes donc attaché à cette jeune femme. Parce que c'est une très belle histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour qui n'a jamais connu la tranquillité, la quiétude.
Non, tout à fait. Et en plus, je me suis rendu compte que les réfugiés, parce que je les rencontre dans les rues à Bruxelles, il faut aussi tenir en compte la réalité que je vois presque quotidiennement à Bruxelles. Je vois les réfugiés, je parle avec des gens qui sont à Molenbeek et tout cela. Et je me suis rendu compte que quelqu'un qui est réfugié sera toujours réfugié, parce qu'il a été déraciné. Et aussi bien cette femme, avec son sort très tragique, quand elle est au Caire, de nouveau elle s'enfuit. Elle ne connaît pas la paix, vraiment pas. Et puisqu'il y a ce document qui nous raconte qu'elle a été mise au bûcher et sauvée en plus, quand elle était déjà en flammes, imaginez-vous le sort de cette pauvre femme.
Elle a tout connu.
Elle a tout connu, mais elle était prédestinée pour devenir l'épouse d'un tel chevalier à Rouen.
Mais oui. Imaginez-vous. Oui. Elle a tout connu. Donc elle s'appelait Vigdis, elle est devenue Sarah, puis Amoutal, prosélyte, puisque c'est le nom que l'on donne aux personnes qui se sont converties au judaïsme. Elle a abjuré sa foi chrétienne et on sent que... alors, son voyage d'ailleurs est extraordinaire. Et alors, c'est vrai que je pense à un film que j'aime énormément, c'est La nuit du chasseur, vous la connaissez ? C'est de Charlton. Regardez-le, c'est un film magnifique. C'est le seul que l'acteur a fait lui-même, La nuit du chasseur, où l'on voit justement deux êtres purs, deux enfants qui sont poursuivis par un homme qui leur veut du mal. Et c'est la lutte entre haine et amour. D'ailleurs, le malfaiteur qui les poursuit a marqué haine, hate and love sur ses deux mains. Ce film, il faut absolument le voir, je le dis à nos auditeurs, parce qu'il est remarquable. Il est remarquable. Et ces êtres purs partent, bravent le danger, ils partent au milieu dans la nature. Et il y a des animaux, il y a la nature toute puissante qui est là, qui dans le fond les protège malgré tout. Voilà. Et vraiment, on pense à cela dans cette histoire. Alors, on se met également, vous nous permettez de nous mettre dans l'état d'esprit de cette jeune femme qui donc a quitté sa famille, sa religion, son confort, et qui va se retrouver en fuite, épuisée, et sans doute culpabilisé aussi à certains moments.
Oui, j'ai attaché beaucoup d'importance à ces pensées.
Oui.
Je pense que pour quelqu'un qui se convertit et qui, en fait, pour ainsi dire, trahit sa famille parce qu'elle s'enfuit la nuit avec lui, parce que c'était complètement impensable qu'il pourrait se marier, je pense que la culpabilité joue un grand rôle. Et à un certain moment, pour moi, le thème, c'était la question « prier à qui ?» À qui est-ce qu'on prie, somme toute? Qui est ce Dieu intime duquel je parle?
Et parfois,
quand c'est Yahvé, ce n'est plus...
Elle prie Dieu de toute façon.
Dieu de toute façon. À un certain moment, je lui laisse dire à qui est-ce que je suis en train de prier, à cette voix intime que je porte en moi et qui m'écoute. Cette intériorité, de l'intériorisation d'une certaine image de Dieu. Mais quel Dieu? Et est-ce qu'elle prie alors en hébreu ou est-ce qu'elle prie comme une fille qui a connu la culture chrétienne latine? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle savait quelque chose des dieux de son père et de son grand-père scandinave? On n'en sait rien. Ça veut dire qu'elle tombait en irlandais on dit entre les chaises.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et à ce moment-là qu'on est déraciné, on n'appartient à rien et à tout.
Et voilà. Et tout le monde se méfie d'elle aussi.
Imaginez-vous seulement le moment qu'elle se rend à Marseille et qu'elle veut prendre un bateau. Est-ce qu'elle se donne, parce qu'à ce moment-là elle est veuve, elle est une veuve jeune de 23 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, elle se donne pour juive ou est-ce qu'elle se donne pour chrétienne? Je pense que de temps
blonde,
en temps, elle choisit.
Elle est bleue, elle a le type normand.
Voilà, évidemment. Et cela veut dire qu'on, à ce moment-là, on se trouve dans un monde qui est ouvert à tout. À toute atrocité et à toute chance.
Oui, d'ailleurs, vous décrivez Marseille et vous dites que finalement, c'est un peu le Marseille que voient les touristes, c'est-à-dire cosmopolite, très vivant, pas très propre aussi. Et là-dedans, elle peut être accueillie. Finalement, elle va pouvoir traverser.
Ouais.
Mais à quel prix?
À quel prix, on ne sait pas. Évidemment, ce n'était pas dans un bateau en caoutchouc ou en plastique, comme maintenant. Je pense que parce qu'elle avait peut-être des finances encore de son mari, un peu, qu'elle a pu se permettre de prendre un bateau pour les Juifs. Parce que les Juifs étaient les commerçants les plus importants à cette époque-là sur la Méditerranée. On peut s'imaginer cela, mais peut-être il y a d'autres choses qui se sont passées. Quand j'ai eu le document entre mes mains, ce qui était pour moi un moment énormément intense et émouvant, j'ai vu qu'il y avait des taches brunâtres. Après 1000 ans, ça se voit toujours, c'est un parchemin. Est-ce que c'est le sang de la prosélyte? À ce moment-là...
Ça, on pourrait le savoir maintenant.
On ne peut pas savoir.
Non.
On ne peut jamais savoir. Parce qu'on n'a que l'histoire qui se trouve sur le parchemin, qui est le témoignage du rabbin de Monieux, qui est Josiah Obadiah, hein, qui est en fait le document sur lequel j'ai basé tout le roman. Et il se trouve une photo du document dans le roman. C'est seulement une lettre de recommandation d'un rabbin à Monieux qui dit « Communauté juive, où que ce soit dans le monde, aidez cette pauvre prosélyte. »
Et elle est la belle-fille du grand rabbin.
Elle est la belle-fille du grand rabbin de Narbonne. Elle ne cesse de pleurer, elle a un nouveau-né au sein. Aidez-la. Mais quand elle est dans ce deuxième document qui parle d'elle, quand elle est mise au bûcher, on ne parle plus de son enfant.
Oui.
Alors le troisième enfant est décédé où? Voilà, les atrocités. Oui. Je dois vous encore dire que parfois des lecteurs me disent « Est-ce que c'était vraiment nécessaire de la faire souffrir tellement ?» Et je dis, je pense que ça a été encore beaucoup plus atroce à cette époque-là.
Oui. Voilà. Ah oui, et quel courage, quel courage.
Ah, une femme forte.
Ah oui, une femme forte à tout point de vue. Nous ne raconterons pas la fin. Il y a beaucoup de choses que, vous voyez, j'avais préparé des tas de questions. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore sur les descriptions, sur la forme également, ce suspense que vous laissez à la fin des chapitres. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est haletant, on est inquiet pour cette jeune femme. Et pour la construction du récit, nous apprenons également beaucoup de choses. Par exemple, le baptême juif de cette femme, c'est très intéressant. Et puis, il y a les incursions de l'auteur, de vous, Stéphane Hertmann. Vous nous faites partager vos réflexions, vos enthousiasmes, vos émotions. Par exemple, il y a une jeune fille, à un moment donné, une jeune fille en tennis, en leggings. Eh bien oui, voilà, c'est l'éternelle femme. C'est en fait, c'est elle, c'est Virginie qui apparaît, ressuscitée. Et puis, oui, j'avais noté encore beaucoup de choses. Beaucoup de cœur, par exemple, les catacombes de Cappuccini. Alors là, je ne vous suis pas du tout. Hein. Honnêtement, je ne vous suis pas. Mais ce qu'il y a, si vous permettez, pour terminer... J'aimerais lire juste un tout petit extrait. Voilà. Je sonde mon imagination, l'idée que je me fais de l'époque de David et Vishdi, un lointain obscur, une tache de lumière devant moi qui s'éloigne chaque fois que je m'en approche. Sous les ciels nordiques, je retrouve mon logis bruxellois à 2h du matin et me dis, ces derniers jours, en ai-je appris ou vu davantage que maintenant dans le noir, pendant ce voyage nocturne dans mon monde intérieur, mon illusion, mon désir de percevoir le moindre détail de ces femmes, de cette femme, aboutissent à la constatation qu'aujourd'hui, elle n'est présente nulle part en dehors de mon imagination.
Oui, ce qui peut rester d'elle, et c'est vraiment mon obsession dans ce livre, qu'est-ce que je peux encore toucher du doigt qu'elle a aussi touché. Et il ne reste que des parchemins et des pierres. Ça nous reste à songer ce qui va rester de nous dans 1000 ans.
Et ce que nous avons dit là, et que nos auditeurs ont entendu, un grand merci Stéphane Hertmann.
Merci à vous.
Merci. Je rappelle qu'il s'agit de Cœur converti, paru aux éditions Gallimard. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que nous comptons sur votre aide, sur vos dons durant cette semaine du Radio Don pour que cette radio vive. Vous pouvez téléphoner au 05 62 48 63 00. Vous pouvez également envoyer un chèque à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31-300 Toulouse, ou en faisant un don en ligne sur le site radioprésence.com. Simple, sécurisé, 24 heures sur 24. Merci d'avance.